C'est parce que Radio Capuini le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
En République démocratique du Congo, les enfants sont de plus en plus touchés par le cancer. La tumeur peut se localiser au niveau de la joue, de l'œil, du sang ou au niveau des reins. Généralement, il n'est pas toujours facile aux parents de détecter les premiers signes de ces cancers pédiatriques. Souvent, les parents vont voir les spécialistes à un stade avancé de la maladie. Quels sont les signes des cancers pédiatriques? Quels sont les moyens de prévention? Docteur René Nguyen.
Bien, écoute, mon cher Jody, merci bien pour d'abord pour l'invitation, encore une fois. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des cancers des enfants. Mmh. Bon, vous me posez la question si les enfants peuvent faire un cancer également.
Mais évidemment.
Ben, non, mais il y en a.
C'est étonnant.
Ah oui, il y en a même qui naissent avec ce cancer. Donc, il y a des cancers qui, si vous voulez, se développent au dépôt du tissu embryonnaire. C'est tout à fait quand l'enfant se forme, là, dans l'embryon, avant 3 mois, mm-hmm. Ben, ces tissus peuvent, disons, subir des mutations et donner des cancers.
Et pourtant, on sait que les cancers, ça concerne les grandes personnes, les adultes,
c'est généralement. Et c'est exact. Mais enfin, il y a des tumeurs, si vous voulez, qui sont propres aux enfants, notamment ces tumeurs d'origine embryonnaire, telles que le rétinoblastome. Le rétinoblastome, c'est une tumeur de l'œil. Mm-hmm. Ah oui, alors, comment on peut reconnaître un rétinoblastome? La mère peut observer une curieuse tache blanchâtre au niveau de l'œil de l'enfant qui a un reflet tel que l'œil du chat. Ce que nous appelons en termes techniques le cocorie. C'est-à-dire, vous voyez l'enfant, la nuit, l'œil brille. Et donc, ça,
l'œil du chat, ça brille.
C'est ça. En ce moment-là, il faut obligatoirement consulter le médecin parce que ça, c'est un signe de rétinoblastome. Mais ce n'est pas seulement c'est pas le seul signe. On peut observer également ce que nous appelons en médecine un strabisme. Un strabisme, c'est-à-dire les deux yeux ne regardent pas
dans la même direction,
si vous voulez, la cible visée. Mmh. Alors, vous voyez une cible, alors vous avez l'impression qu'un œil regarde de l'un côté et l'autre de l'autre. Et bien ça, c'est aussi.
Mais il y a des gens qui ont les yeux comme ça, loustre, on les appelle les loustres.
Exactement. Donc il y en a comme ça, mais ça peut être chez les enfants un signe, si vous voulez, de rétinoblastome. Mm-hmm. On peut également avoir un œil qui augmente de volume, et brutalement comme ça. Vous voyez l'œil de l'enfant qui fonce, puis qui devient rouge. Et en ce moment-là, il faut voir le médecin. Ça, c'est une tumeur de l'œil. Mais les tissus embryonnaires, on peut avoir également la tumeur du rein. Nous appelons ça, en termes techniques, nephroblastome ou tumeur de Wilms. La tumeur de Wilms, c'est une tumeur qui se développe donc au dépens du rein et se manifeste. C'est parfois de découverte assez tardive et un peu difficile. Voilà. Mmh. Parce que. Quand le rein augmente de volume, naturellement, on voit l'abdomen qui gonfle également. Et donc, pour nous, lorsque nous faisons ce que nous appelons un palpé bimanuel, nous pouvons palper la masse. Alors, nous disons que le contact lombaire est positif. Enfin, ça, sont les termes
techniques.
Simplement, nous sentons la présence d'une masse au niveau de l'abdomen. Mmh. Et quand ce signe-là est positif, donc, nous pouvons dire, attention, ça peut être un nephroblastome ou une tumeur d'Ewilms. Mais également, l'enfant peut avoir de l'hématurie. Hématurie, c'est-à-dire émission des urines sanguinolentes. Quand l'enfant a une émission des urines sanguinolentes, il faut voir le médecin, on va faire des examens et on peut détecter un nephroblastome. Une des tumeurs qui est très très fréquente chez les enfants, chez nous, dans notre pays, c'est la tumeur de Burkitt, le lymphome de Burkitt. C'est un cancer assez curieux.
Il se manifeste comment?
Ben écoutez, pour la petite histoire, je vais raconter à toutes les deux.
Okay.
Monsieur Denis Burkitt est arrivé en Ouganda en 1958.
C'est un chercheur américain?
C'est un chirurgien anglais.
Un chirurgien anglais.
Oui, il est arrivé, il est venu pour autre chose. Il est venu étudier la filariose, notamment l'éléphantiasis.
En Ouganda.
En Ouganda, à Kampala. quand il arrive là-bas, il constate chez les enfants une tumeur qui se localise au niveau de la joue. Alors, mon Dieu, il a fait les analyses et il a constaté que c'était un cancer. Mais un cancer aux dépens des cellules lymphoïdes. Bon, écoutez, ça c'est un peu difficile à traduire.
C'est pas bien.
En réalité, ouais. c'est un cancer assez spécial. Bien, se localise surtout au niveau des joues. Mais on peut également le trouver au niveau de l'abdomen et au niveau des autres organes, notamment les ovaires, la rate, le foie, etc. Mais principalement au niveau donc des maxillaires, donc des mandibules, au niveau des joues. Oui. Alors en ce moment-là, vous voyez la joue qui gonfle, l'architecture dentaire devient tout à fait anarchique, et c'est une tumeur qui peut évoluer de manière spectaculaire, comprimer les organes nobles, notamment le larynx et le pharynx, et l'enfant ne sait plus respirer. Ça peut même envahir les narines, en ce moment-là, l'enfant ne respire pas bien. C'est une tumeur qui est l'autre tumeur la plus fréquente ici.
Comment vous avez appelé ça d'un coin de
Burkitt, c'est un monsieur. Ouais. Il a donné ce parce que c'était le tout premier cancer.
C'est une tumeur porte son nom. Et c'est la forme qui est beaucoup plus fréquente ici, selon
vous, en RDC. Oui, c'est la tumeur, disons, la plus fréquente. Et même, je dirais, la tumeur la plus fréquente dans la zone subsaharienne, mais dans la ceinture malarienne. C'est-à-dire là où saisit la malaria, parce qu'on rattache cette tumeur à l'endémie malarienne. Parce qu'il semble que certaines protéines de la malaria vont réveiller, si vous voulez, un virus spécial qu'on appelle Epstein virus. Et l'Epstein virus, on peut le contacter soit par l'atmosphère, soit par les plaies, etc. Surtout quand les enfants, dans le temps, les mères, quand donnaient les aliments à leurs enfants, elles mâchonnaient d'abord ces aliments pour mieux les broyer, donner à leurs enfants, et en ce moment-là, ils pouvaient transmettre le virus.
Et puis, assez souvent, cette maladie se manifeste auprès des enfants qui ont quel âge?
Souvent, on voit la tumeur se développer entre 2 ans et 7 ans.
Entre 2 ans et 7 ans.
Nous avons donc cette tumeur qui est vraiment assez spectaculaire, parce que vous voyez...
C'est un gonflement moléculaire des joues.
Si nous avions vraiment la télévision, on pouvait montrer les photos, c'est assez spectaculaire.
Un auditeur en ligne avec une Bougimaille, vous voulez également participer, composez le 081-890-6394, le standard est déjà ouvert. Nicolas, vous êtes en Bougimaille, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Quelle est votre question, Nicolas?
Oui, j'ai 3 petites préoccupations.
Oui.
Comme vous le savez, tout ce que le cancer est une épreuve très difficile qui bouleverse la vie de plusieurs familles. Et pour la plupart des parents, ce traumatisme chez les enfants engendre de la peur, de la tristesse, de la culpabilité ainsi que de la colère. C'est pourquoi je veux savoir quel conseil que notre invité peut-il donner aux familles qui sont à terre, donc qui ont ces douleurs du cancer plutôt. En plus, le traitement du cancer, est-ce possible? Ça peut prendre combien de temps?
Merci Nicolas. Ismaël nous appelle de Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Bonjour monsieur Jodi et bonjour à tous les auditeurs de la radio Vati.
On vous écoute.
Ah oui. J'ai quelques préoccupations, quelques questions. Je cherche à demander à notre invité quelle est la différence entre l'ischémie chronique et la leucémie aiguë comme cancer. La deuxième question, quelle est la méthode préventive de l'ascorbie et pourquoi la beriberie fait partie aujourd'hui du cancer chez les petits enfants? Et quelle peut être une manifestation sincère de ce genre de cette maladie? J'avais aussi quelques préoccupations, c'est pas une suggestion tout simplement.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire du tout en soi lorsque une personne est atteinte de cette affection pour lutter sincèrement à ce genre de stade? Pour moi, j'avais voulu accepter qu'il y a une alimentation saine dans ce genre de propos, ça peut aller au soulager une personne qui est atteinte. Et surtout chez les enfants, c'est presque un peu difficile pour déchiffrer et connaître réellement dans un genre de stade. Quel peut être le conseil qui peut être produit chez les parents, ou chez les responsables, chez les personnes atteintes de cette manifestation pour être soulagé.
Merci Ismaël. Docteur Rémy. La première question de Nicolas de Mouzoumaï, c'est pour lui. Il dit, il y a beaucoup de familles qui en souffrent, des enfants qui souffrent de ces tumeurs. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ses parents, dont les enfants sont malades?
Écoute, mon cher Nicolas, c'est assez pénible, effectivement, d'avoir un enfant qui a un cancer, parce que le cancer n'est pas un problème bénin. Et donc, pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que vous puissiez consulter un médecin qui peut faire quelque chose pour vous. En principe, dans les pays mieux organisés, les cancers sont pris en charge par des structures bien spécialisées. Et dans ces structures, on trouve non seulement des médecins, mais on trouve également des psychologues, on trouve des pédagogues, on trouve des musicologues, en tout cas toute une équipe pour soulager tant soit peu les douleurs de ces enfants et les douleurs de la famille. Donc, dans notre pays, ces structures n'existent pas, malheureusement, et donc, nous espérons que nos voix sont entendues pour que les décideurs puissent créer ce genre de centre.
Et sa deuxième question, quel est le traitement approprié et ce traitement du premier temps?
Oui, le traitement des cancers dépend du cancer lui-même. Parce que tous les cancers ne se traitent pas de la même façon. Mais en général, la durée du traitement d'un cancer est de plus ou moins 2 ans. Donc, c'est une situation assez pénible.
Quand le traitement dure
environ 2 ans. Oui, quand on a tout le matériel, on a tous les médicaments, on a toutes les structures de détection de ce cancer, on a tous les éléments de surveillance, dans ce moment-là, je crois qu'il y a moyen de traiter les cancers, parce qu'en Europe, les gens, vous avez des cancers comme les leucémies, sont traités la guérison de 80% environ. Mais chez nous, c'est toujours assez.
Il y a encore des problèmes.
Il y a encore beaucoup de problèmes.
Et d'ailleurs, Ismaël a posé la question de savoir la différence entre la leucémie et la leucémie.
Oui, la leucémie aiguë et la leucémie chronique.
Oui.
Et ben, dans la leucémie aiguë, nous avons justement des cellules blastiques, c'est-à-dire des cellules trop jeunes, immatures. OK? Nous avons une prolifération anarchique, mais des cellules immatures. Tandis que dans la leucémie chronique, nous avons une prolifération, mais des cellules matures. Donc, c'est ça, si vous voulez, la différence.
La différence.
Oui,
il a parlé aussi de l'alimentation. Est-ce qu'une alimentation saine peut prévenir l'apparition des cancers?
Bon, je pense bien. Non seulement une alimentation saine, mais également un environnement sain. Parce qu'une histoire comme la tumeur de Burkitt, il faut réunir un certain nombre d'éléments, un faisceau d'éléments, pour que l'enfant puisse contracter la maladie. Et ces éléments sont, primo, le paludisme. Donc, si on peut essayer d'éradiquer le paludisme, ça peut être une bonne chose. Deuxièmement, l'hygiène défectueuse de la bouche. Ça, si on peut bien nettoyer cette bouche, qu'on peut sauver son hygiène et tout ça, corporel, ça peut être quelque chose.
Brosser les dents, brosser les mains,
etc. Oui, voilà. Ben, si on peut éviter d'être dans des milieux infectieux, parce que l'un des virus qui infecte ces enfants, c'est le virus Epstein-Barr virus. Et là, nutrition également, naturellement, interfère dans ce genre de situation parce que les gens qui ont une malnutrition ont une certaine disimmunité. Donc, je pense bien que la nutrition, l'hygiène corporelle et l'environnement sain, ça peut prévenir beaucoup de cancers.
Oui, alors, docteur René, est-ce qu'on a une idée sur le taux, les statistiques, le nombre d'enfants qui sont atteints de ces tumeurs, surtout là où vous travaillez, aux cliniques universitaires de Kinshasa?
Merci pour la question. Et bien voilà, justement, nous avons peut-être demandé aux structures, disons, à la hiérarchie, que chaque structure médicale a ce qu'on appelle un registre de cancer, parce que nous devons avoir les statistiques nationales pour que nous ayons une idée exacte. Mais pour le moment, il faut dire que nous n'en avons pas. Donc, les universitaires de travail, comme je vous dis, le cancer le plus fréquent est donc la tumeur, le lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt, après le lymphome de Burkitt, nous avons le rétinoblastome, la tumeur de l'œil. Et enfin, nous avons les leucémies. La leucémie, c'est une tumeur assez spéciale. En réalité, c'est du sang, c'est ce que nous appelons, si vous voulez, de manière un peu
cancer des sangs,
un cancer des sangs. Voilà. Mais c'est une prolifération anarchique des cellules qui se trouvent dans le sang. Et qui, naturellement, puisque les cellules du sang naissent dans la moelle osseuse, dans ces cellules qui prolifèrent de manière anarchique et de ces cellules immatures vont envahir la moelle, vont étouffer cette moelle, et donc toutes les bonnes cellules qui devraient naître de cette moelle ne naissent plus, notamment les globules rouges. Souvent, l'enfant a une anémie, notamment les globules blancs. L'enfant a alors des infections, parce que ces globules blancs nous défendent contre les infections, et enfin, les plaquettes sanguines sont étouffées également. Nous avons donc ce qu'on appelle des hémorragies. C'est ainsi que ces enfants vont faire quoi ? Ils vont être anémiques, on doit les transfuser, ils vont faire des infections, hein, et une des infections que ces enfants font, donc quand vous avez un enfant d'environ 4 ans, qui a une infection pharyngée, une infection pharyngée sévère, donc une angine nécrotique, c'est-à-dire vous avez la nécrose au niveau donc, du pharynx, il faut faire attention. Il faut bien regarder cet enfant. Oui, je pense bien qu'en ce moment-là, si cela est possible, il faut le référer. Bon, nous avons une structure au clinique universitaire pour recevoir ces enfants.
Bien, Ezeb nous appelle de Manono, bonjour.
Bonjour, vous êtes à la radio Capi.
On vous écoute, Ezeb.
Oui, j'aimerais vous dire. Petit frère, Manono, a des mères. Et ce petit frère a un an seulement. Et il présente il y a plus de 2 mois. Maintenant, cet enfant présente seulement la fièvre. Et j'aimerais demander si cela c'est le cancer. Si c'est un cancer, quels sont les remèdes?
Vous dites que votre petit frère de 1 an a un cancer à quel niveau? A une tumeur à quel niveau?
Bon, c'est au niveau de son cou.
Au niveau de son cou?
Oui. Et cela, il y a plus de 2 mois. J'aimerais demander si c'était cancer. Si c'était cancer, quels sont les remèdes? La deuxième question est la suivante.
Oui.
Est-ce que le cancer est plus contagieux?
Oui. Docteur Venin.
Oui, je commence par la seconde question. Écoutez, cher ami, le cancer n'est pas contagieux. Parce que ce n'est pas une maladie infectieuse. Le cancer, c'est une prolifération anarchique d'un tissu. Donc, je ne pense pas que... Enfin, non, il n'est pas question que le cancer soit contagieux. La seconde question, c'est que le petit frère qui a une masse au cou, ben, ça peut être beaucoup de choses. Vous savez qu'une tuberculose ganglionnaire peut se manifester par une masse au niveau du cou. Mais également, d'autres tumeurs, comme justement la tumeur de Burkitt, ça peut se localiser au niveau, non seulement de la mâchoire, mais également au niveau du cou. Nous avons aussi des lymphomes, mais à ces âges-là, un an, c'est assez rare, ce qu'on appelle la maladie de Hodgkin. La maladie Hodgkin, c'est un cancer, c'est un genre de cancer, mais j'avoue que le cancer, c'est un diagnostic de spécialiste. Et donc, ne vous amusez pas à garder cet enfant à l'hôpital, il faut à la maison, il faut l'amener à l'hôpital, et si l'hôpital pense qu'il faut référer cet enfant chez le spécialiste, à vous, c'est certainement qu'on peut trouver des gens qui peuvent traiter ce cancer.
Mais est-ce que tous nos hôpitaux à travers le pays ont des équipements nécessaires pour détecter rapidement un cancer?
Non, justement, nous n'avons pas l'équipement, et même au clinique universitaire, nous travaillons avec des moyens de bord. Nous n'avons pas l'équipement requis, nous n'avons pas les médicaments nécessaires, etc. Il y a une dame que nous avons formée ici, qui est partie au Botswana, et qui me disait, écoutez, docteur Guillaume, vraiment, je suis triste quand je vous vois, parce que moi, je ne sais pas utiliser les médicaments anticancéreux, mais dans mon armoire au Botswana, là-bas, c'est plein de ces médicaments. J'ai dit, voilà.
Au Botswana.
Ironie du sort.
Ironie du sort. Les questions de préoccupation qu'on posait le 081-899-6034, nous parlons des signes de cancer chez l'enfant.
Vous êtes jeune, vous êtes curieux, nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement, nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, Point de vue et Portrait de jeune. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le code de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Quels sont les signes de cancer chez l'enfant? Docteur René Lioulou, médecin pédiatre, en hématologie et oncologie, et l'invité de Capi Service. Alors, docteur, vous avez parlé de lymphome de Burkitt, hein, oui. Qui est une forme de tumeur fréquente ici chez nous, les enfants, des joues qui gonflent. Alors, lorsque vous recevez ces enfants à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites? Comment s'est fait la prise en charge? Est-ce que vous n'avez ni les produits, ni l'équipement qui faut?
Oui, bon, nous avons quand même un petit équipement, c'est-à-dire qu'au moins on peut faire une biopsie. Quand on fait une biopsie de la masse, on l'envoie au laboratoire, on nous répond, hein, tumeur de Burkitt. Hein, c'est une tumeur qui peut vous décrire facilement parce qu'ils connaissent ça très bien au niveau de notre laboratoire d'anatomie pathologique. Et en ce moment-là, malheureusement, nous faisons une prescription des médicaments. Et ces médicaments coûtent extrêmement cher. Parce que je dois vous avouer, mon cher Jody, que un flacon d'oncovin, l'oncovin dans la vin Christine, qui est un médicament que nous utilisons fortement, un flacon coûte 100 dollars.
Un flacon 100 dollars.
Un flacon 100 dollars. Et l'enfant doit recevoir, n'est-ce pas, 4 doses par mois, par exemple. Et en ce moment-là, c'est simplement pour l'oncovin.
500 dollars. Et 400 dollars, vous allez dépenser 400 dollars par mois.
Pour un médicament. Parce que souvent, nous faisons ce qu'on appelle la polychimiothérapie. Le cancer ne se traite pas avec un seul anticancéreux. Nous essayons de combiner plusieurs anticancéreux pour essayer d'avoir un bénéfice beaucoup plus large, beaucoup plus important. Et donc, quand on combine l'adriamycine, l'oncovin, la cyclophosphamide et d'autres médicaments, et en ce moment-là, mon cher ami, il faut vendre une maison pour pouvoir...
C'est un traitement coûteux.
C'est un traitement extrêmement coûteux. Normalement, des maladies pareilles devaient être prises en charge soit par des structures organisées, que ce soit des mutuelles, ou je sais pas moi, des assurances, soit aussi par l'État. Mais dans notre pays, ce n'est pas encore le cas.
Titi nous appelle de Kiananga, dans la province du Kassai occidental. Bonjour Titi.
Oui, bonjour, je dis, j'ai juste une préoccupation, là, j'avais 15 ans, j'en ai 30 maintenant. Oui. J'ai été opérée au sein gauche. Bon, je me rappelle, on disait que c'était un tumeur, un fibrome. Je veux juste savoir que le docteur, l'invité, hein, si ça peut m'éclaircir, si c'était un cancer ou quoi. Parce que j'ai été opéré, tout mon sein gauche là était ouvert et on a sorti des trucs. Je ne sais pas si c'était un cancer ou quoi. Mais là, j'ai déjà accouché, j'ai allaité même mon fils avec le sein là, je vais très bien, mais je veux juste savoir c'était quoi au juste. Quand on parlait de un tumeur, un fibrome, je ne sais plus quoi, là. Je vais un peu être éclairci.
Docteur Aurélie, ben, heureusement, ma petite Titi, que ça ne soit pas un fibrome. Parce que toutes les tumeurs, si vous voulez, ne sont pas des cancers. Il y a ce qu'on appelle les tumeurs bénignes, et les cancers sont des tumeurs malignes. Les tumeurs de un fibrome est une tumeur bénigne. Lipome, par exemple, c'est-à-dire une boule de graisse, hein, un kyste, et tout ça sont des tumeurs bénignes. Donc pour toi, ce n'était qu'une tumeur bénigne, et je ne crois pas que cela ait une conséquence quelconque dans votre vie.
Donc il ne s'agissait pas d'un cancer.
Non, il ne s'agissait pas d'un cancer.
Ah, Titi, je pense que vous êtes rassuré maintenant.
Oui, merci,
je
voulais juste être rassuré.
Merci, bonne journée à Kiananga, dans la province du Kassai occidental. Donc on retient que le traitement d'une tumeur coûte les yeux de la tête.
Oui.
Alors, qu'est-ce que les parents doivent faire dans le cas de la prévention?
Vous savez, bonsoir, je dis que le cancer n'a pas tout à fait, disons, une origine bien connue. Les cancers naissent de manière spontanée. Nous savons que il y a des facteurs
favorisants. C'est par rapport à l'hygiène de vie, à l'alimentation.
Il y a des facteurs favorisants, comme on dit.
Lesquels?
Les facteurs favorisants sont multiples. Il y a des gens qui sont prédisposés génétiquement à faire des cancers. Donc, il y a des cancers qui, si vous voulez, sont d'origine héréditaire, tels que le rétinoblastome dont j'ai parlé. Mmh. Quand un parent est un rétinoblastome, souvent l'enfant peut faire un rétinoblastome également. Mais il y a des tumeurs qui sont favorisées par l'environnement. Et l'environnement, on doit en parler. Parce que ça, c'est important. L'hygiène corporelle, l'hygiène générale, c'est très, très important. Mais regardez, la fumée de la cigarette. Je disais à un jeune neveu, avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, il fumait comme une fusée. Alors je lui ai dit, écoute, fiston, il faut que tu arrêtes. Mais vraiment, c'est un ordre. Il faut que tu arrêtes de fumer. Parce que la cigarette est un facteur favorisant du cancer. Par plusieurs mécanismes. Quand vous fumez, n'est-ce pas, cette fumée va engendrer ce qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres vont endommager les cellules. Et peuvent être, disons, peuvent être impliqués dans la genèse des cancers. Et ça, c'est vraiment assez péjoratif.
Donc cette fumée est préjudiciable, pas seulement aux fumeurs, même aux fumeurs passifs.
Hein. Exactement. Donc même dans l'environnement, oui. La fumée des véhicules. Mais ceci, j'ai toujours voulu parler au chef de la police de roulage. Sincèrement, j'ai toujours voulu lui dire un petit mot gentil et lui dire, il faut qu'on, non pas arrêter les gens, mais disons, empêcher que ce véhicule circule. Parce que cette fumée-là, pollue l'atmosphère, libère beaucoup de gaz, du soufre, du plomb, du monoxyde de carbone, etc.
Et donc, et les gens inhalent tout ça. Hein,
et eux-mêmes, les policiers, l'ont loupé. Et donc, nous sommes tous en danger de mort. Donc, je pense bien que il y a des facteurs favorables. Il y a les radiations ionisantes. Donc, les gens qui travaillent dans les radiologies et tout ça. Ils portent toujours un badge. Ce badge-là, c'est pour leur indiquer, disons, le degré de radiation de leur corps.
Est-ce qu'il n'y a pas un équipement spécial?
Oui, il y a un équipement
spécial.
Oui, tout à fait. Quand on a une radio, souvent, on met une blouse métallique. Et alors, il y a d'autres facteurs qui favorisent, notamment les pesticides, les insecticides, les hydrocarbures, etc. Donc, nous avons tout un faisceau de facteurs qui peuvent, non pas obligatoirement donner le cancer, mais qui peut favoriser l'éclosion d'un cancer.
Mais d'après certaines personnes, si la détection, lorsqu'on détecte tôt un cancer, il y a beaucoup de chances de guérir.
Exactement. C'est-à-dire que nous préférons qu'à la moindre suspicion, que les amis qui sont dans la périphérie puissent nous envoyer des malades qui sont suspects de cancer. Parce que souvent, ce que nous remarquons, c'est que ces enfants nous arrivent très, très tardivement. On a traité, c'est pour moi,
un dispensaire, un quartier.
Oui, il faut être honnête. À chacun son niveau. Moi, je ne suis pas cardiologue. Quand j'entends un souffle du cœur chez un enfant, mais je leur envoie sur les cardiologues. Parce que je ne suis pas capable de traiter une tétralogie de Fallot, ou c'est pour moi, tout un tas de cardiopathies des enfants. Donc, quand vous, quelque chose, vous ne comprenez pas, demandez à l'aîné.
Avoir l'humilité.
Oui, je pense que ça, c'est très important. On est le grand médecin que quand on est humble. Oui, et c'est ce que moi, j'apprends toujours à la jeunesse. Je dis, soyez humble. Soyez humble. Pas mettre un stéthoscope au cou, gonfler, tout ça, ça ne vous sert à
rien. Donc, quand vous, médecin, vous êtes devant un cas qui vous semble tout vous échappe, alors il faut le retirer.
Il faut le retirer. Oui, à l'aîné, tout au moins demander un conseil.
Parce que la plupart des cas, des enfants qui arrivent chez vous sont à un stade avancé de la maladie.
Très, très avancé.
Et là, il n'y a plus rien à faire.
Plus rien à faire. Souvent, c'est le stade 4. Et le stade 4, c'est la mort. Quelle que soit, disons, la prise en charge. Quand vous recevez un WIMS, donc la tumeur du rein là-bas, au stade 4, avec envahissement et tout ça, ça s'en vend beaucoup.
Même si vous avez un Afrique du Sud ou à l'étranger, c'est trop tard.
Mais il y en a plein qui rentrent aussi dans le cercueil, c'est vrai.
Bien, docteur René Ngiulu, médecin pédiatre anématologie et oncologie, merci et à la prochaine.
Merci monsieur, aujourd'hui de vous voir encore une fois invité et ce sera un autre plaisir de vous revoir.